Danke für deine Gegenwart auch jetzt. Danke, dass du hier bist und ein Anliegen hast für uns alle, Herr. Bedecke uns alle mit deinem kostbaren Blut, Herr.
Recouvre-nous tous, Seigneur, de ton sang précieux. Que nous te regardions, toi, et pas autre chose, et que nous ne soyons pas détournés par autre chose. Ô Seigneur, que tu nous apparaisses nouvellement. Ôte les voiles de nos cœurs, ôte tout endurcissement de nos cœurs. Nous voulons te voir tel que tu es. Seigneur Jésus, quand son peuple se retrouve, alors le Seigneur se montre également. Et c'est une grande joie, non seulement pour nous. Par exemple, quand je suis arrivé hier soir, je me suis tellement réjoui de voir tant de frères et sœurs. Mon cœur s'ouvre vraiment quand je vois les frères et sœurs. Et on comprend un peu mieux quand Paul dit combien il remercie les frères et sœurs et qu'il prie pour eux et qu'il prie avec joie pour eux. Les frères et sœurs sont précieux pour le Seigneur. Et encore plus quand nous nous retrouvons ensemble. Et le Seigneur ne nous appelle pas simplement à être ensemble comme ça, pour nous revoir. Mais il a vraiment un fardeau. Et comme nous l'avons vu, il vous désire nous rendre parfaits. Il désire rendre parfaite l'Église. Et ici, dans Philippiens, il est beaucoup question d'une certaine communion, d'une communion précise, d'une communion de l'Évangile. Les Philippiens, ils avaient, comment le dirais-je, ce privilège. Ils étaient la première Église en Europe qui n'a non seulement écouté l'Évangile, mais qu'il a accepté. Nous l'avons entendu pendant les deux dernières réunions. Il y a vraiment cette histoire merveilleuse qui nous est présentée dans Acte 19. Et les hommes les plus différents sont arrivés à la foi. Et même comment ils sont arrivés dans cette église, ce n'était pas Paul qui a eu une bonne idée et qui voulait absolument annoncer l'Évangile en Macédoine, non? Il voulait aller en Asie, dans les provinces coloniales de l'époque. Ils voulaient annoncer l'Évangile, ils avaient prévu cela. Mais là, l'Esprit Saint leur a défendu d'y aller, il s'est opposé à eux. Et alors, il est dit, l'Esprit ne leur permit pas. Et alors, ils ont dû partir dans la direction de Troas, traverser la mer et rejoindre la Macédoine. Pendant la nuit, Paul a vu un visage, un homme de Macédoine qui dit « Viens vers nous, aide-nous ». Et ensuite, il n'est pas dit « J'ai vu un visage cette nuit, nous devons aller en Macédoine ». Non, c'est merveilleux. C'est vraiment décrit comme ça se passe aussi chez nous. Le Seigneur donne une impression et tu ne dis pas « Ah, le Seigneur m'a dit ». Non, tu donnes ton impression. Et alors, il y a quelque chose qui émerge, cette connaissance. Il est dit, ils décidèrent que Dieu voulait qu'ils aillent en Macédoine. Pas seulement, ah, moi j'ai une révélation, ah, moi je suis conduit par l'Esprit, je fais ci et cela. Tout cela pour le Seigneur. Mais tout se produit dans la communion. Mais Paul n'est pas parti tout seul. Il était dans une communion, dans la communion de l'Évangile, pour l'Évangile. Ils étaient en route. Et maintenant, ils se rencontrent ici à Philippe, où tout est déjà préparé. Ils ont rencontré des femmes qui se retrouvaient hors de la ville pour prier. C'était certainement des femmes juives. Et une de celles-ci, on dirait peut-être une dame riche même, une marchande de pourpre. C'est vraiment des choses précieuses quand tu as un commerce avec ces affaires-là. Et cette femme, comment est-il dit? Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle écoute ce que Paul disait. Oui, c'est le Seigneur qui lui a ouvert le cœur. Paul ne dit pas, elle a entendu l'évangile de ma part, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Non, le Seigneur lui a ouvert le cœur. N'est-ce pas merveilleux? C'est toujours le choix du Seigneur. Peut-être que toi, tu aimerais aller vers lui, lui annoncer l'évangile, mais l'autre l'a entendu. Et c'est au troisième que le cœur a été ouvert. Le Seigneur conduit ainsi. Le Seigneur lui a ouvert le cœur et elle fut baptisée avec toute sa maison. La maison à l'époque, ce n'était pas seulement que nous appelons la famille aujourd'hui. Avec maman, papa et l'enfant. Non, non. Non, c'était vraiment toute la maisonnée. Tous ceux qui habitaient dans la maison, ils avaient des serviteurs, il y avait même essentiellement des esclaves. Donc, si tu es dans une famille riche, il fallait avoir plein de services. Toute la maison se fit baptiser. Et tous ont accepté l'évangile et furent baptisés. C'est merveilleux. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu penses, ah, je me suis fait baptiser, maintenant tout est bien. Maintenant, je suis sur le chemin. Oui, c'est vrai, tu es sur le bon chemin. Mais tu dois voir encore un peu quelque chose. Lydie, spontanément, a eu un désir. Elle dit, si vous jugez que je suis digne du Seigneur, parce que je suis croyante maintenant, alors venez dans ma maison. Ça veut dire, le Seigneur ne lui a pas seulement ouvert le cœur, mais elle a aussi ouvert sa maison au Seigneur. C'est merveilleux. Et c'est une histoire merveilleuse. Et Paul a vécu tout cela. Comme cela, et ça s'est passé sous ses yeux, sous ses propres yeux. C'est pour cela qu'il dit que Dieu a commencé une bonne œuvre là. Oui, c'est Dieu qui a commencé cette œuvre depuis le début. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il a commencé là, en vous, cette bonne œuvre en vous, il l'accomplira. Il l'amènera à la perfection. Et il dit aussi pourquoi? Parce que dès le départ, vous avez eu communion à l'évangile. Ils étaient vraiment comme entraînés. Ils n'étaient pas seulement auditeurs de Paul, mais d'une certaine manière, ils étaient rendus vivants et participaient à l'édification de l'Église. Et là, le Seigneur veut que nous fassions partie, chacun de nous. Sinon, le Seigneur n'est pas content, mais je te rajoute, mais et toi non plus, tu ne seras pas content. Tu peux entendre des messages merveilleux, mais tu ne seras pas satisfait si tu n'as pas part à l'Évangile, à la communion de l'Évangile. Donc, il n'y avait pas seulement une femme avec toute sa maisonnée très riche qui a été sauvée. Il a fallu, en plus, donc, un petit réglage de micro, et voilà. On continue. Donc, il fallait aussi qu'une autre personne soit sauvée, à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et c'est ainsi dans la vie d'Église. Ce serait tellement bien d'avoir cette maisonnée de Lydie, tout est tellement harmonieux, merveilleux, mais il y a quelque chose, je n'ose presque pas le dire, mais c'est un joaillier. Qu'est-ce qu'il a comme passé? C'est vraiment un gars très dur. Il a dû être très dur pour pouvoir chaque jour laisser fouetter les gens, les emprisonner, les supplicier, les enfermer, vraiment les mettre dans les chaînes. Ah, mais c'est terrible. Mais justement, lui, le Seigneur voulait aussi l'avoir. N'est-ce pas merveilleux? Il est important pour le Seigneur qu'il puisse nous atteindre. Et ce geôlier a eu besoin de quelqu'un pour qu'il puisse être atteint. Il n'était pas là-bas lors du fleuve. Il n'a jamais été dans une synagogue quand Paul y était. Il était dans son prisonnier. C'était son domaine de vie, là. C'est pour cela que Paul a été envoyé par le Seigneur en prison. Il a été traité comme un malfaiteur, parce qu'auparavant, il y avait eu un tumulte à cause du fait qu'il ait chassé des démons celle qui avait un mauvais esprit de divination. Et allez hop, on l'a mis en prison. Et ça se passe ainsi. Et ainsi, Paul et Silas étaient en prison. Nous, peut-être, on aurait dit, bon, maintenant, notre communion pour l'Évangile se termine là. Bon, c'est fini. C'est fini avec. On s'arrête là avec Philippe. On est assis ici avec les rats dans ce trou. Vraiment prisonniers, on ne peut pas bouger. Et ils auraient pu discuter avec Dieu et même être amers. Mais Seigneur, on t'a servi, on t'a donné notre vie, et maintenant tu nous envoies là-dedans, dans ce lieu perdu. Mais non, ils n'ont pas murmuré. Du moins, jusqu'avant minuit, rien n'est écrit dans la parole. Mais à minuit environ, ils ont commencé à louer Dieu. Et à chanter. Ils ont chanté des louanges. Alléluia. Tu es dans une telle situation. Tout va de travers. Tout se produit différemment de ce que tu espérais. Et tu commences à louer Dieu. Amen. Et une telle vie est en chacun de nous. C'est Christ en nous. C'est un merveilleux évangile qui a été répandu là à Philippe. Le joaillier fut sauvé avec toute sa maison. Et là aussi, il est question de toute la maison. Tous ont été sauvés. Tous ont été baptisés. Et maintenant, c'était l'église à Philippe. Et ce que j'ai vu après, il voulait le réhabiliter, mais pas vraiment. Il voulait vraiment s'excuser, il voulait simplement qu'il disparaisse, qu'il s'en aille sur la pointe des pieds. Mais Paul ne s'est pas simplement laissé faire là. Et ouvertement, ils ont dû le faire sortir de la prison afin qu'il soit réhabilité. Et qu'il ne sorte pas comme ça en honte de la ville. Non, non. Et les frères étaient avec. Et il est dit qu'ils se séparaient des frères. Et je me suis dit, mais quels frères? Ça veut dire qu'il avait déjà une vraie vie d'église. Le geôlier était juste venu à la foi. C'était sûrement pas lui. Mais dans cette maison, dans cette communion de maison, chez Lydie, il y avait déjà une série de frères et sœurs qu'on pouvait déjà qualifier d'église. C'est merveilleux, en un temps si court, le Seigneur a commencé son église. Et la communion de l'Évangile, c'est quelque chose de merveilleux pour moi, parce que l'Évangile n'est pas seulement que nous allions quelque part et que nous annoncions la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas que nous donnions un enseignement de la mort, de la vie, de la mort, de la résurrection du Seigneur. Certes, il y a un enseignement, mais en premier lieu, l'Évangile est une personne. L'Évangile est une personne. Par exemple, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, il y a un verset qui dit, il est dit qu'ils ont annoncé Jésus en tant que l'Évangile. C'était à Antioche. Et là, quelques-uns ont commencé. Ce n'était pas ceux de Jérusalem qui l'ont fait. L'Église était née à Jérusalem, mais quelques-uns qui étaient venus de Chypre, et d'ailleurs encore, ils sont devenus chrétiens et ils sont arrivés d'une certaine manière à Antioche. Et c'est là qu'ils ont annoncé Jésus en tant que l'Évangile. Et c'est là qu'il s'est passé qu'il n'y ait pas seulement des Juifs qui arrivent à la foi, mais qu'il y ait même des païens qui soient sauvés. C'est merveilleux à Antioche ce qui s'est passé là. Jésus Dans Romains 1, Paul dit l'évangile de son fils. Paul a ce devoir, cette mission, d'annoncer l'évangile du Fils de Dieu. Et au début de Corinthiens, il est dit aussi, je me suis résolu à ne rien savoir parmi vous, je ne sais rien. Quand tu me poses une question, je dis, je ne sais rien. Non, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Lui, le crucifié. Il n'est pas venu avec un paquet, entre guillemets, d'enseignements, de doctrines, donc à Corinthe, mais il est venu avec Christ. Cela doit nous impressionner. Dans l'Église et dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit que de Christ. Ce qui a été annoncé dans l'Ancienne Alliance, c'est une personne. Lis Ésaïe 9. Non. Ésaïe 9, verset 5. Connais-tu ce verset? Tous les jeunes, vous devez connaître ce verset. Ésaïe 9, le verset 5. C'est un verset merveilleux. Il montre clairement ce qu'est l'Évangile. Peut-être si tu l'as, lisez-le ensemble là. Vous pouvez vous lever. C'est bon, il est bon de se lever. Merci Seigneur pour les deux frères qui se lèvent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merveilleux. Ça, c'est la promesse dans l'Ancienne Alliance. Il y en aura un qui viendra. Et il est tout. Amen. Il est le vrai homme. Et il est en même temps Dieu. Tu penses que c'est le Fils, mais aussi c'est le Père éternel. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est merveilleux. Il est dommage qu'à l'époque, les religieux, les chefs religieux ont rejeté cette pierre angulaire. Nous n'avons pas le droit de faire cela. Christ doit être tout dans l'Église. Pas seulement une pierre dans l'angle, mais il doit tout être tout. Cet évangile, c'est Jésus-Christ. Et Paul l'a annoncé à Philippe, dans la ville de Philippe. Ce Christ, il y a 2000 ans, n'était qu'une personne. Comme on l'a dit déjà, quand tu voulais le voir, à l'époque, il fallait être en Galilée si tu voulais voir Christ. Donc tu l'aurais rencontré là-bas. Tu aurais pu parler avec lui, tu aurais pu l'écouter, tu aurais pu le voir, tu aurais pu le voir en action. Mais un des disciples à l'époque, qui est venu à lui, il a été invité au travers, par l'intermédiaire d'amis. On lui a dit, viens, nous avons trouvé le Messie. Viens, viens avec nous. Le fils de Joseph de Nazareth. Oh, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? C'est Nathanaël, il s'appelait ainsi. Et viens y voir. Et alors, il est venu à Jésus et Jésus lui a dit, ça c'est un vrai Israélite en lequel il n'y a aucune fraude. Et Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Tu ne me connais pas. Et il lui dit, ah, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu comme quand tu étais sous le figuier. Rabbi, dit-il, tu es le roi d'Israël. Tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Et alors il dit, oui, toi tu crois parce que je t'ai vu sous le figuier. Cela te suffit déjà. Mais tu verras encore des choses plus grandes que celles-ci. Tu veux voir des choses plus grandes. Et savez-vous que nous tous, je pense, on a vu des choses plus grandes que ce que n'a vu Nathanaël. Que dit Paul dans ce passage ici? Il dit, il dit au verset, alors le frère cherche le verset, chapitre 1, verset 12, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc, Paul était en prison, continuellement en prison. Donc, quelle vie avait-il? Bon, apparemment, c'est pas une belle vie, là. Non, il n'est pas dans une très bonne position. Il se dit, comment je suis? Si, ça a été très bien pour les progrès de l'Évangile. Cela en a encouragé certains. A encouragé certains à suivre cet exemple sans crainte de Paul et se déclarer clairement pour le Seigneur. Il y en a qui l'ont fait par dispute, à cause de motifs pas très droits, même il voulait créer des dommages à Paul pour lui créer des dommages. Mais lui, au verset 18, il dit, peu importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc se réjouir, de chanter un chant avant avec la joie. Philippiens, très souvent, tu y trouves dans Philippiens le mot de joie. Cela commence avec de la joie, cela continue avec de la joie. Paul est plein de joie en prison parce qu'il voit que les frères et sœurs sont encouragés par lui. Il l'a entendu et donc il s'en réjouit. Et il se réjouit même que l'évangile est prêché par d'autres. On ne sait pas trop bien ce qui s'est passé à l'époque, mais il y avait une difficulté. Il y avait des collaborateurs qui avaient d'autres intentions en tête. Et Paul, ne s'est pas attristé à propos de ces conditions. Il n'a pas dit, il faut qu'on entreprenne quelque chose contre ceci. Non, je m'en réjouis. Dès que Christ est annoncé, je me réjouis. Et c'est juste aussi. Il y a un verset qui dit dans Romains 1, où il est dit, l'Évangile est une puissance de Dieu. Je dirais que ça ne dépend presque pas de celui qui annonce l'Évangile. Mais la force est contenue dans l'Évangile. Donc, si quelqu'un annonce l'Évangile et des personnes en arrivent à la foi, cela est dû à la force de Dieu et non pas nécessairement aux personnes qui annoncent l'Évangile. Mais comme il est dit, l'Évangile est une personne. Et l'Évangile, dès le départ, a été aussi une affaire de l'Église. Et c'est pour ça qu'il a été dit, vous verrez des choses plus grandes. Le Seigneur aimerait que quelque chose de plus grand soit visible. Et dans Apocalypse 22, au verset 17, un des derniers versets de la Bible, Qu'est-il écrit ici? Il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, il n'est pas dit quel est le contenu de ce message-là. Dans ma vie, une fois, par deux, trois jeunes gens, j'ai rencontré Jésus. Ça a été un jour décisif dans ma vie. J'ai reconnu Jésus est le Seigneur. Jésus est une réalité. Et moi, je ne peux pas passer à côté de cette réalité. Et à ce moment-là, pour la première fois, de manière consciente, j'ai prié Jésus, je lui ai parlé. Et après, j'ai su que j'étais né de nouveau à ce moment-là. On ne m'a pas expliqué grand-chose. Je n'ai pas compris grand-chose non plus. Et on m'a donné quelques conseils, mais cela ne m'a pas tellement aidé. Mais je savais que Jésus vit. Et néanmoins, il y avait un certain chemin individuel. Maintenant, je suis chrétien. Donc, quelque chose a changé. Mais, quand pour la première fois, je suis venu dans une réunion d'église, et pas seulement dans une réunion, mais aussi après la réunion, j'ai été dans une communion. Là, ça n'a pas arrêté. Une communion où on parlait seulement de Jésus. Jésus qui est tout, avec tant d'aspects différents. C'est pas seulement un prédicateur qui présente tout tellement bien, mais tant de frères et sœurs qui sont tous remplis de ce merveilleux Christ. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est cette communion pour l'Évangile. Amen. Merci, Seigneur. Il faudrait que j'arrive à transmettre tout ce que j'ai préparé. Donc ici, il y a dans Philippiens 1, 19, que cela contribue au progrès de l'Évangile. Mais je sais que même s'il y en a qui annoncent l'Évangile avec de mauvais motifs, je sais que cela servira à l'Évangile. Il sait qu'il est porté par la prière des frères et sœurs, ceux qui intercèdent les uns pour les autres. Et ce n'est pas seulement intercéder pour ceux qui sont malades, mais il nous faut prier aussi pour ceux qui sont les apôtres, et ne pas penser, oh, mais les apôtres n'en ont pas besoin. Paul avait besoin de la prière. À un autre endroit, il dit même, priez pour moi, afin que la parole me soit donnée alors que j'ouvre la bouche, alors que je présente la parole comme je dois la présenter. Il avait besoin de cette prière. Il était toujours dans cette communion. Et tout, dit-il au verset 19, tout servira à mon salut. Mais Paul n'était-il pas déjà sauvé? Que veut-il dire par mon salut? Paul était déjà sauvé. Il a donc vécu un salut très clair. Jésus l'a rencontré et est même devenu aveugle. Donc, il a expérimenté cela de manière puissante. Il y a eu un tournant décisif de sa vieille vie vers Christ. Ici, il est parlé d'un salut bien précis. Nous avons besoin d'un salut continuel. quand on dit que tu es sauvé, ça veut dire que tu es né de nouveau dans ton esprit. Ça veut dire que la semence de l'esprit est venue en toi, mais peut-être que tes pensées sont toujours encore les vieilles pensées. Il y a encore tant de choses en nous qui a besoin d'être sauvées. Mes habitudes, mon modèle de pensée, mes sentiments, je ne suis de loin pas encore comme Dieu aimerait que je sois. Et c'est pour ça que Paul connaît aussi les difficultés, que ces difficultés lui servent à son salut, pour que le Seigneur puisse travailler en moi. Ceci fait de moi encore plus quelqu'un qui est utilisable par Dieu. Et il est dit ici, et il n'est pas seulement dit grâce à vos prières, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est une merveilleuse expression que nous avons là. Et quand nous regardons plusieurs traductions de Bible côte à côte, il y a beaucoup de traductions disent par l'aide, l'assistance de l'Esprit. Mais le mot en grec a une signification. Ça peut être de temps en temps l'assistance, mais ça vient d'un arrière-plan. C'est un mot qui a été créé. Je m'en suis préoccupé un peu parce que ça m'a vraiment intéressé. Ce mot est le mot épicoréga. Ce qui veut dire, cela décrit plutôt quelqu'un qui, pendant qu'il est en tournée, donc ils avaient déjà des tournées à l'époque, ça pourrait être, aujourd'hui, ça pourrait être des chanteurs, des acteurs, ou à l'époque, pareil, ceux qui se produisaient dans des grands théâtres, il y en avait toujours un qui était là pour sponsoriser cela. Afin qu'une telle manifestation puisse avoir lieu, il y avait toujours un sponsor riche, et lui, il payait pour le peuple. Naturellement, on inscrivait aussi quelque part son nom, parce qu'il avait produit les fonds pour que la manifestation puisse avoir lieu. Donc, il pourvoyait à tout ce dont la troupe avait besoin. La tribune, ce dont les personnes avaient besoin, tout. Il finançait tout. Et donc, ce mot, koreg, en grec, donc, de ce mot, il s'est formé le synonyme dans l'Antiquité. C'était un mot qui signifiait autant que parfait pour pourvoir à tous les besoins de la vie. Par exemple, un fiancé qui voulait épouser une fiancée, il fallait qu'il mette tout par écrit, tout ce qu'il allait apporter pour pouvoir aux besoins de sa future et de la famille. Donc, ici, le riche approvisionnement de l'Esprit de Jésus est très proche de la signification. Les traductions anglaises emploient surtout le mot de satisfaire aux besoins. Je trouve que c'est vraiment notre expérience. Tu n'as pas seulement besoin de quelqu'un, d'une aide qui te tape de temps en temps sur l'épaule ou qui souffre avec toi ou qui t'aide un peu. Tu as besoin d'un approvisionnement, intérieur. Comment un Paul autrement pourrait-il commencer à louer Dieu dans la prison? Pourquoi? Parce qu'il a le riche approvisionnement de Dieu qui le pourvoit. Et il nous faut connaître cet approvisionnement. Aussi longtemps que nous nous portons bien, prenez-le, cet approvisionnement. Pas seulement quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes en prison, quand vous êtes dans la détresse. Non. Apprenons aujourd'hui riche, à jouir de ce riche approvisionnement. Combien de fois invoquons-nous le nom du Seigneur? Seigneur Jésus. Parfois, on a déjà pensé, c'est simplement une pratique. C'est quelque chose c'est une habitude, disons. Mais savez-vous que le fait de boire, je me suis habituée à boire alors que j'étais enfant. Et maintenant, je ne peux plus le laisser. J'aime boire. Le frère prend un verre d'eau. Oui, prends le calice des délivrances, la coupe des délivrances et invoque le nom du Seigneur. Que veut faire le Seigneur avec nous aujourd'hui? Je pense qu'il est important que nous apprenions quelque chose de l'Épître aux Philippiens. Nous y ressentons une telle fraîcheur, une telle joie. Tu ressens aussi un Paul qui est approvisionné par l'Esprit tu ressens aussi qu'il a le fardeau que l'œuvre de l'Église avance. Et maintenant, donc, tout tourna à son salut grâce à vos prières. Au verset 20, il dit, selon ma ferme attendant et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est une phrase qui est longue, mais pleine de contenu. Parfois, je regarde d'autres traductions de la Bible. Je vous conseille aussi à chacun d'entre vous, de temps en temps, de regarder. J'ai trouvé une traduction qui l'exprime de manière un peu plus difficile à comprendre, mais qui l'exprime mieux. C'est la traduction de Genève, je le lis, dans Philippiens 1, verset 20. C'est mon attente et mon forte espérance qu'en rien du tout, je n'aurai honte et ne serai déçu. Mais comme ça a été le cas jusqu'à présent, que maintenant aussi, la grandeur de Christ sera visible, soit que je meure, soit que je vive. C'était le cas pour Paul. Il ne savait pas comment tout allait se terminer. Et Paul a montré là qu'un jour, il se tiendra devant le Seigneur. D'une certaine manière, il était conscient qu'il irait à la rencontre de Dieu. Soit le Seigneur revient, ou moi, je retourne vers lui. Et il avait cette ferme attente et cette espérance qu'il n'aurait honte de rien. Je ne voudrais pas avoir honte parce qu'à un moment donné, j'ai été négligent. Non, il est important que nous ayons aussi une telle attitude. D'un côté, le riche approvisionnement de l'esprit, mais aussi cette saine crainte pour le Seigneur, de ne pas être mis en honte devant le Seigneur. Parce qu'un jour, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ et nous devrons rendre compte. Et il dit un merci merveilleux, car Christ est ma vie. La plupart des traductions disent la vie est pour moi Christ, ou Christ est ma vie. Mais vivre est encore quelque chose de plus, de dire vivre c'est Christ. Si quelqu'un dit le football est ma vie, alors je ne sais pas encore s'il est assis à chaque fois devant son téléviseur ou s'il joue vraiment au foot et à quel point il est bon au foot. Mais vivre, pour moi, c'est Christ. C'est cette manière d'écrire. Vivre, pour moi, c'est Christ. Quand le matin je me lève, Seigneur Jésus, tu es ma vie. tu es mon commencement ce matin. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais demeurer en toi. On y viendra plus tard. Paul dit, dans son vieil âge, il voudrait absolument gagner Christ et être trouvé en lui. Nous y reviendrons. Il voudrait être en Christ. Et nous le voyons dans tant de situations, également dans sa vie, comme Actes des Apôtres le montre, comment il exprimait Christ dans des situations les plus variées. Il exprime Dieu. Il exprime Christ par sa vie tout à fait normale. Il ne s'efforce pas. Maintenant, il faut que je me comporte bien. Maintenant, je dois vivre comme Christ. Ça, c'est une exigence énorme. Comment peux-tu vivre Christ? Un seul peut le faire, cela. Efforce-toi de vivre Christ. Nous avons besoin d'une telle attitude. Seigneur, j'aimerais te gagner, être trouvé en toi. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Dis-le au Seigneur. Seigneur, tu es ma vie. Amen. Tu es l'initiateur et le consommateur de ma foi. J'aimerais demeurer en toi. Tu as commencé une bonne œuvre en moi. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il ne nous met pas devant un catalogue d'exercices ou de devoirs, mais il nous offre le fait de pouvoir nous réjouir de lui. Ce Christ, ce riche approvisionnement, nous voulons vraiment l'expérimenter. Qu'est-il dit dans Romains 10 ? Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et qu'annonce Paul ? Quel évangile annonce-t-il ? Moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux nations, le salut. Non, les richesses insondables de Christ, ça c'est l'évangile. Tu pourrais dire, prêcher Christ, mais simplement prêcher Christ, c'est tellement simple, trop peu pour certains, ça leur paraît trop peu. Mais les richesses insondables de Christ, et quand nous voulons servir dans l'Église, comment est-ce écrit dans l'Épître aux Romains ou dans les Épîtres de Pierre? Alors, nous devons être de bons économes de la sagesse variée de Dieu. Nous devons servir dans tout ce que Dieu nous donne. C'est vraiment des richesses immenses dans lesquelles nous pouvons puiser. Et cela conduit à l'édification de l'Église, c'est dans Éphésiens 3. Comment dit Paul? Entre le verset 19 et le verset 26, il a un mot que je ne comprends pas en allemand. Voilà, il dit, je préférais partir et être auprès du Seigneur. Qui voudrait préférerait être auprès du Seigneur? Arrêtez maintenant d'être auprès du Seigneur. Et beaucoup de doigts se lèvent. Donc nous ne sommes pas encore vraiment là où en était Paul, que quelques-uns. Ça montre aussi que Paul était prêt. Paul était prêt et a pu écrire à Timothée, la couronne de justice m'est préparée, j'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course. Il en était sûr. C'est un tel modèle pour moi, c'est possible. Il voulait être chez le Seigneur. Il y avait tant de choses qui ne lui plaisaient pas, qu'il n'aurait pas vraiment voulu endurer. Mais être avec le Seigneur est beaucoup meilleur, de loin meilleur. Mais il dit, mais à cause de vous, il est nécessaire que je reste dans la chair. Donc je reste encore un peu dans cette tente. De toute façon, un jour, elle disparaîtra. Mais à cause de vous, je reste encore dans la chair. C'est merveilleux. Et c'est pour ça, il est quand même convaincu qu'il est bon qu'il reste dans la chair. Et il dit, et c'est pour ça, il peut dire, la mort m'est un gain. Pour lui, mourir est un gain. Parce qu'il sera directement auprès du Seigneur à ce moment-là. Et vivre, c'est Christ. Soit par ma vie, soit par ma mort. Loué le Seigneur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il veut rester dans la chair pour servir les saints? C'était sa vie. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous, dit-il dans Colossiens. Et Philippiens 1:22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, Paul aimerait bien avoir du fruit. Il aimerait voir que les saints portent du fruit. Il aimerait les voir croître, qu'ils portent du fruit. Et ensuite, il dit un merveilleux verset. Donc le frère cherche un verset.
Dass Christus groß gemacht werde an meinem Leibe.
Que Christ soit magnifié dans mon corps. Le fait, il n'y a pas beaucoup de versions qui disent magnifié, et dans certains qui disent que Christ soit glorifié, mais que Christ doit être agrandi dans mon corps. Christ aimerait être agrandi ou magnifié. Il y a un terme que je ne connais pas. Bon, il dit simplement le Seigneur aimerait être grand, agrandi pour qu'on puisse mieux le voir. Et pour cela, il nous a appelés. C'est pour ça qu'il t'envoie toi dans ton école, afin que là-bas on puisse moins voir Christ. Il nous faut être conscient de cela. Paul était conscient de cela, que Christ doit être vu en moi, dans le moindre des saints. Le Seigneur doit être exprimé, agrandi, magnifié. Christ doit être magnifié dans mon corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Car Christ est ma vie, ou vivre, c'est Christ. Et ce qui fait, si on le voit au verset 24 ou 25, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Pour votre avancement, pour qu'il y ait des progrès en fait dans ce que vous vivez, pour que promouvoir votre joie dans la foi aussi. Il y a un autre verset de l'Ancien Testament dans Ésaïe. Avez-vous encore Ésaïe, les deux frères qui ont lu avant? Donc Ésaïe 50, le verset 4. C'est encore un des quatre versets que nous devrions connaître. Donc Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est merveilleux. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Il nous donne des oreilles pour écouter comme des disciples écoutent, mais pas seulement pour que nous écoutions, écouter, et à la fin nous ne faisons qu'écouter que ce qui nous plaît. Ça existe aussi. Et la Bible nous avertit même. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où tu peux entendre plein de choses. Tu peux en entendre beaucoup. Et tu ne sais plus où tu en es. Tellement tu peux entendre de choses. Mais il ne s'agit pas là d'entendre quelque chose de bien et encore de meilleur, quelque chose, et encore de plus beau et encore de plus intéressant. Mais il s'agit que nous entendions la voix du Seigneur. C'est pour ça que nous avons des oreilles. Une oreille suffirait peut-être déjà, d'après Apocalypse 2 et 3. Celui qui a une oreille entende. Mais nous avons deux oreilles. Dans les psaumes, il est dit, nous l'avons vu récemment à Karlsruhe, tu m'as donné des oreilles, mais tu n'as pas voulu des offrandes, mais tu m'as gravé des oreilles. Imagine-toi le potier qui te crée à partir de la terre et qui te façonne deux belles oreilles. C'est merveilleux. Et on peut aussi le traduire par « les oreilles, tu m'as, me les as percées ». C'est un pas un peu plus loin. Autrefois, nous étions durs d'oreilles, mais le Seigneur, par notre amour pour lui, par notre amour, son amour pour nous, nous a attirés à lui. Et nous étions prêts à nous donner à lui. Et nous aimons le servir dans sa maison. C'est comme cet esclave dans l'Ancien Testament qui, à un moment donné, a eu l'oreille poinçonnée pour montrer qu'il appartient au Seigneur. Et il le fait de manière volontaire. C'est merveilleux. Louez le Seigneur. Le Seigneur réveille notre oreille. Et que nous donne-t-il? Quel genre d'oreille? Tu te souviens de quel genre de langue, pardon, de quel genre de langue il nous donne? T'en souviens-tu? Que peut faire la langue? Vraiment soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est tellement important. Frères et sœurs, nous en avons besoin dans l'Église. Tellement souvent, j'ai été encouragée par une parole d'un frère ou d'une sœur. Ne sous-estime pas cela. Et laisse-toi enseigner par le Seigneur. Écoute le Seigneur. Laisse-le réveiller ton oreille. Et ensuite, exerce-toi aussi à dire une parole dans l'Église afin d'encourager d'autres. Pas seulement que tu aies dit quelque chose, mais c'est une joie pour les autres quand ils reçoivent une parole d'encouragement. Et ici, il est question d'un disciple. Un disciple, c'est un écolier. Je pense que vous aussi, vous êtes encore des étudiants ou des écoliers, ouais. Nous sommes pleinement qualifiés. Plus on commence tôt, mieux c'est. Nous nous laissons ouvrir les oreilles par le Seigneur. Nous nous laissons réveiller les oreilles et nous apprenons de lui. Et nous apprenons aussi à encourager les autres par une parole. Ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait quelque chose, ceci avec nous. Là, vraiment, on a un verset dans Hébreux 6, le verset 10. Hébreux 6, le verset 10. Donc je le lis, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendez encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Si nous servons les saints, Paul le dit, il veut avoir la joie des frères et sœurs. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu récompensera toute chose quand nous servons les saints. 2 Corinthiens 1, 24 nous dit aussi,
2 Corinthiens 1, 24,
non pas que nous dominions sur votre foi. Je trouve que c'est une attitude tellement belle. Non pas que nous dominions sur votre foi. Dans l'Église, nous ne devons pas avoir ce genre de domination, ce genre d'autorité. Où à la fin, il règne une certaine crainte. Même l'apôtre Paul, qui avait une telle autorité parmi les églises, il disait que nous n'avons pas d'autorité, nous ne sommes pas ceux qui dominons sur votre foi. Il est très humble. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Car nous contribuons à votre joie. Paul écrit beaucoup aux Philippiens au sujet de la joie. J'aimerais tant que vous connaissiez la joie du Seigneur, que cette joie augmente en vous. Chaque fois que tu fais quelque chose contre le Seigneur, alors la joie en toi décroît. Et plus tu suis le Seigneur, plus tu lui obéis, tu écoutes sa voix. Ce sont parfois dans les petites choses. Tu veux acheter quelque chose et le Seigneur te dit non, laisse ceci. Et tu l'écoutes. Et tu lui obéis, en fait. Et tu ne cliques pas tout de suite sur Amazon quand quelque chose te plaît. Mais tu écoutes ce que dit le Seigneur. Oh, tu n'as pas besoin de ça maintenant. Certes, il y a des choses dont nous avons besoin, mais il y a des choses dont on n'a pas besoin. Nous vivons dans le temps où, quand quelque chose est disponible, on veut l'avoir. Mais ce n'est pas bon, nécessairement. Et là, tu écoutes le Seigneur. Et le Seigneur te récompense avec la joie. Ne l'as-tu pas déjà remarqué? Par nature, j'ai tendance à être un peu, je ne sais pas quel est le mot, schlampisch. Bon, je laisse un peu traîner les affaires. Mais à partir du moment où je commence à ranger, il y a la joie du Seigneur qui me remplit. Je commence même à chanter, à siffler. Il y a tant de choses dans lesquelles nous pouvons obéir au Seigneur. Et pas seulement le faire quand les parents disent quelque chose, mais dès que le Seigneur nous dit quelque chose. Cette joie dans le Seigneur est notre force. La joie du Seigneur sera votre force. Ce n'est pas une méthode, mais quand nous écoutons le Seigneur, nous avons la joie. Amen. Et maintenant, il est dit ici, dans les derniers versets, ils sont vraiment merveilleux, les derniers versets du chapitre 1. Au verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne. Autrefois, ensemble, nous lisions les versets en priant. Oui, nous conduisons d'une manière digne. Ne menez qu'une vie. Une vie. Pas une vie dans la vie d'église, dans l'église et une autre vie ailleurs. C'est une vie. Conduisez-vous d'une manière. Parce que sinon, ce sera difficile. On ne peut pas tout concilier. Je suis comme je suis.
Gemeinde ist kein, wie soll man sagen, keine Veranstaltung.
L'Église n'est pas quelque chose qu'on allume, qu'on éteint. Non, nous ne menons qu'une vie, digne de l'Évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, nous ne menons qu'une vie, et elle est digne de l'Évangile de Christ. Et dans cette même phrase, il dit deux fois le mot de « un » ou « une ». Et cela me rappelle fortement à Éphésiens 4. Éphésiens 4, il est aussi dit question d'une vie digne. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc là aussi, il était en prison. Et puis, il était toujours en prison. Donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et ce qu'il énumère maintenant, ce n'est pas seulement notre vie individuelle que nous menons ainsi, où nous devons être rangés, où nous devons bien nous comporter, mais ce qu'il écrit ici est central, c'est-à-dire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Frères et sœurs, c'est le problème aujourd'hui, aussi entre nous les chrétiens, que cette unité, malheureusement, a été perdue. Et nous ne sommes pas satisfaits avec cela. Nous ne prenons pas simplement ça comme ça. Dès le début, le Seigneur avait son plan. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et c'est un corps et une tête. Et nous, devons maintenir cette unité. Comment était cette première église à Jérusalem? Ils étaient tous remplis de l'Esprit, ils ont annoncé la parole. Et ensuite, il est dit, ils étaient un cœur, une âme. Tous ceux qui étaient arrivés à la foi, tous ceux qui avaient cru, ils étaient un cœur et une âme. Et pas seulement un esprit, mais il y avait quand même l'unité de l'Esprit. Quand l'Esprit nous donne la vie, quand nous devenons enfants de Dieu, alors nous avons en nous un tel besoin de vivre en unité avec les autres enfants de Dieu, d'être dans la communion. Ça, c'est cette communion de l'Évangile. Et dans cette communion, moi, j'aimerais y être. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas faire une œuvre pour Dieu. Où Dieu devra dire par la suite, « Ah, mais je ne t'ai pas demandé de faire ceci. Je ne te connais même pas. Tu fais des choses chouettes comme si je t'avais donné un contrat, devoir de le faire, mais je ne te l'ai pas demandé. » Donc, quand ce qu'on voit durant toute la parole, c'est que Dieu aimerait avoir son Église dans l'unité. Et quand il y a eu des problèmes dans une Église à cause de différentes manières de penser, si par exemple je viens à Berlin et que toi tu es pour tel et tel frère, l'autre frère est pour tel autre frère, alors là, oh là. Alors Paul dit, là il y a de la division parmi vous. Ça c'est de la division. Combien d'églises existent-elles? Combien existe-t-il d'églises? Jésus a combien d'églises? Une seule. Et nous vivons aujourd'hui dans un temps où il est évident que des chrétiens, des personnes nées de nouveau, vont dans leurs différents groupes. sans qu'ils aient conscience que ce n'est pas la condition normale. Au début, il n'en était pas ainsi, dit Jésus quand il s'agissait du divorce. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de divorcer? Moïse a donc dit qu'on avait le droit de répudier la femme, on a donc le droit. Mais Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Ce n'était pas le plan de Dieu. Un homme, une femme. Le principe, c'est le principe de Dieu. De même, Christ et l'Église. C'est tout simple. Et nous compliquons tout, nous les hommes. Parce que nous ne vivons pas Christ. Christ est un seul. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Comment toi peux-tu dire, je vis Christ, et toi tu dis, je vis Christ, et nous nous séparons, et nous nous disputons? Parce que souvent, nous sommes encore tellement convaincus de nous-mêmes. Nous savons parfois, nous connaissons parfois mieux les choses que Dieu. Dieu veut la réconciliation. Dieu veut le pardon. Dieu veut que nous nous acceptions réciproquement les uns les autres. Et nous, nous les hommes, nous voulons faire des différences. Nous faisons des différences. Ça a été dit ces jours-ci, ce matin aussi. Le Seigneur doit nous être miséricordieux afin que nous voyions clairement. C'est cette unité que le Seigneur aimerait avoir. Dans Philippiens 1, il est dit une vie digne de l'Évangile. Avec une âme, combattant d'une même âme. Nous sommes nés de nouveau dans notre esprit. En esprit, nous sommes tous un, mais il faut que ce soit pratique aussi. Et pour le rendre pratique, il faut aussi que ton âme fasse partie de cela. Ton âme, tes pensées, tes désirs, tout ce qui concerne ta personnalité, c'est ton âme. Elle doit être comprise dans ce combat. Et il faut qu'elle puisse être renouvelée. Et ceci en expérimenter un tel salut quand notre pensée est renouvelée. Et nous devons donc être ensemble dans ce combat avec une même âme. Et Jésus dit dans Jean 17, c'est dit clairement. C'est vraiment le but. Jean 17. Les versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Comment est-ce possible cela? Comment pouvons-nous être un comme Jésus était un avec le Père? Là, c'est quelque chose de très élevé. Ça, cette exigence, tu ne peux que l'exécuter par cette vie que nous avons reçue. Et nous savons que cette vie produit l'unité. C'est un fruit de la vie en nous, de Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cette gloire que nous soyons tous un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Verset 23. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc il faut qu'il existe un tel témoignage. Nous Nous sommes là pour être là dans ce témoignage. Je ne voudrais combattre, mais pour rien d'autre, seulement pour cela. J'aimerais vraiment continuer de mettre ma vie à disposition de Christ et de l'Église. Beaucoup d'entre nous ont vu clairement quelque chose du Seigneur. Certains sont arrivés à ce stade il y a quelque temps, d'autres plus longtemps, ont mis plus de temps. Mais nous avons tous besoin d'une telle vision, une telle compréhension, une telle être conscient dans quel genre d'affaires, entre guillemets, nous sommes. Pense à cette chose. À l'époque, Jésus a gagné quelques personnes alors qu'il était sur cette terre. Il n'y en avait pas beaucoup. Nous ne sommes pas non plus nombreux. Tu peux aussi dire, nous ne sommes pas encore nombreux. Nous devons aussi faire confiance au Seigneur que nous deviendrons plus. Mais que ce soit le Seigneur qui le fasse. Ne regarde pas les sièges, chaises vides, non. Nous regardons au Seigneur. Cela dépend de la qualité. Nous ne faisons pas une œuvre où tout le monde doit être identique, comme dans l'armée. Non. Tous savent à quelle heure il faut se coucher par terre pour prier. Non, ce n'est pas une telle unité que nous voulons. Mais l'unité, c'est Christ. Et Christ vit en nous. Et nous pouvons vivre sa vie aujourd'hui sans avoir une représentation de comment cela. Ouais. Nous avons quelques directives, mais dans la parole, mais c'est le Seigneur qui doit pouvoir nous conduire, comme il a pu conduire Paul jusqu'à Philippe et dans Philippe même. Et ainsi, nous aussi, nous sommes des disciples aujourd'hui. Nous nous laissons conduire par le Seigneur. Et la communion de l'Évangile. Ces derniers temps, j'ai aussi relu la lettre dans Apocalypse, la lettre aux Éphésiens. Ils avaient tant de choses. Il est dit, et vous avez démasqué les apôtres qui ne sont pas. Vous avez de la persévérance, mais ce que j'ai contre toi, imagine-toi que le Seigneur a quelque chose contre une soi-disant bonne église. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais alors il n'a pas dit, repens-toi et d'abord aime. Donc Apocalypse 2, 4, 5, il dit, pratique tes premières œuvres. Et moi, je vois ici, dans Philippe, ils ont connu les premières œuvres. Cette communion pour l'Évangile, participer à ce que fait le Seigneur, dans sa manière d'avancer, et souffrir également, être prêt à souffrir, prêt à combattre. Seigneur Jésus, j'ai nouvellement eu ce désir de me lever. Nous avons besoin de cette conscience. Nous sommes importants dans la vie d'Église. Le Seigneur a besoin de nous tous. Imagine-toi. Nous tous qui disons, Seigneur, je me donne à toi pour ton dessein. Je veux me consacrer à toi pour te vivre, Christ, pour l'édification de l'Église. Me donner pour cette œuvre merveilleuse que toi, tu as commencé. Ça, c'est une puissance. Même s'il n'y en a que 10 qui le font, vous vous retrouvez. Et vous priez, Seigneur, nous nous donnons à toi, bâtis ton église à Stuttgart, continue de bâtir, à Munich. Amen. À Aalen. À Tübingen. à Reutlingen, à Pforzheim, à Karlsruhe. Oh Seigneur, le Seigneur œuvre. Bonn, ah, on a oublié Bonn. Paris, amen. Amen. L'église à Paris, il le dit en français. C'est merveilleux. Le dit-il en français? Le Seigneur est merveilleux. Il nous a appelés dans son royaume, dans son dessein. Et nous sommes là maintenant, là-dedans. Que devons-nous faire maintenant? Vivre Christ? Amen.